Présidence.
Bienvenue à tous pour ce premier numéro de Présidence. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle émission sur les ondes de Transistor, émission politique dédiée à la campagne présidentielle qui veut vous donner à suivre autrement le débat politique, loin des vaines polémiques et des jeux d'alliances politiciennes, en prenant du recul pour s'interroger sur le fond, sur l'avenir à donner à notre société. Premier numéro et numéro spécial, puisqu'en effet, au sommaire de cette émission, les meilleurs moments du débat d'Arnaud Montebourg, organisé le samedi 1er octobre par l'association Terra Nova, qui nous a conviés à couvrir l'événement. Meilleurs moments montés par nos soins et commentés avec en prime. Une interview de Christiane Taubira, membre du Parti radical de gauche, qu'elle a représenté à l'élection présidentielle de 2002 et soutient à la campagne d'Arnaud Montebourg. Également, une entrevue avec l'économiste Pascal Lemerrer pour analyser le concept de démondialisation dont Arnaud Montebourg se fait le héros. Et enfin, quelques mots du candidat à la primaire lui-même qui a accepté à la fin de 2 heures de débat de répondre brièvement au micro de présidence. Samedi 1er octobre, palais de la mutualité. Il y a du monde sous les dorures en pierre du Grand Hall, des jeunes surtout, qui attendent de s'installer dans la salle pour écouter le débat organisé par Terra Nova avec Arnaud Montebourg. Les portes finissent par s'ouvrir et nous prenons place au premier rang, oui c'est la classe, sur les sièges réservés pour Transistor. Sur la scène, le vice-président et directeur éditorial de Terra Nova, rédacteur en chef de la revue Esprit, Marc-Olivier Padis, s'affaire. C'est lui qui animera le débat qui va confronter Arnaud Montebourg à diverses personnalités issues de la société civile, Daniel Benamouzig, sociologue de la santé, Julien Coll, délégué général de Transparency International, et Lionel Zinzou, banquier d'affaires. Une rumeur, et des têtes qui se tournent. Le candidat à la primaire socialiste fait son entrée et va s'installer sur la scène, derrière une table à la nappe rouge écarlate. Loin de sa grandiloquence habituelle, le député et président du Conseil général de Saône-et-Loire est calme. Il déboutonne les manches de sa chemise blanche et le débat commence. Tout au long du débat, il affiche une sérénité impérieuse, une fermeté dans le ton, une dureté sans concession dans l'analyse de la situation et la désignation des coupables, y compris dans son propre parti, une expertise des dossiers et une prestance et une présence indéniable. Oui, Arnaud Montebourg en impose et semble avoir revêtu ses habits de président. Il n'est plus le cabot de Sego qui brocardait en 2007 sur Canal+, François Hollande, seul défaut de la candidate. 4 ans plus tard, c'est contre les deux qu'il se retrouve en compétition au sein des primaires du Parti Socialiste et de ses alliés, primaires citoyennes, auxquelles participent également Martine Aubry, Jean-Michel Baillet et Manuel Valls. Dans les débats pour l'investiture socialiste, Arnaud Montebourg, avec sa démondialisation, son protectionnisme européen, moderne et vert, sa 6e République, apparaît comme le mouton noir de la Maison Rose. Mais Montebourg est loin d'être isolé, encouragé à la fois par le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, le souverainiste sourcilleux, Jean-Pierre Chevènement, le démographe radical, Emmanuel Todd, qui signe d'ailleurs la préface du livre du candidat « Voté pour la démondialisation », ou encore encouragé par le philosophe Michel Onfray, il l'est également par les derniers sondages qui le donnent en progression, talonnant voire dépassant Ségolène Royal. Il dit ne pas attacher beaucoup d'importance à ces sondages, mais croit en ses chances. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je serai au second tour et je gagnerai cette primaire car je suis le seul à proposer une alternative à la dictature des marchés. C'est ce qu'il déclarait la semaine dernière dans le Nouvel Obs. Arnaud Montebourg mise sur sa différence pour l'emporter. Écoutons.
Toutes les occasions sont bonnes pour le candidat que je suis, candidat depuis maintenant 11 mois, 10 mois et demi, de défendre des propositions qui sont des idées nouvelles. Elles ne sont pas, à proprement parler, originales, parce que beaucoup de pays que j'ai étudiés avec d'autres en font usage ou ont cherché à les appliquer. Bref, c'est vrai pour la France, qui est un pays globalement conservateur dans ses idées, qui a toujours peur du renouvellement ou de la prise de risque. Elles sont, c'est vrai, un peu audacieuses, mais je crois que la France ne s'en sortira que par l'audace. Donc c'est le sens de ma candidature. C'est une candidature de proposition, de solution nouvelle, difficile, sur lesquelles il y aura des obstacles à franchir, Mais je ne crois pas que devant l'écroulement du système financier et économique, dans cette crise de la mondialisation, on puisse arriver avec les recettes d'il y a 15 ans. 15 ans, c'est les fondamentaux de la construction européenne qui sont aujourd'hui totalement obsolètes. 15 ans, c'est les fondamentaux du libre-échange qui ont conduit à cette mondialisation destructrice au nord et au sud, dans les pays du nord comme dans les pays du sud. 50 ans, c'est les fondamentaux de la Ve République qui aujourd'hui sont en train de pourrir par la tête comme le poisson. Hein. Et j'ai envie de dire, la social-démocratie qui a survécu à toutes les tempêtes, qui est un vieux logiciel tout à fait utile, car il a permis de passer beaucoup de crises, est aujourd'hui confronté à des révisions déchirantes, c'est-à-dire l'obligation soit de disparaître, soit de confronter son idéal ou l'effectivité de son idéal au système aujourd'hui devenu extrêmement dur. Pour moi, le projet socialiste est inapplicable si on ne s'attaque pas au système financier et à la mondialisation. Aujourd'hui, le libéralisme est allé tellement loin que si nous ne prenons pas des dispositions nouvelles et différentes de celles qu'on a eu l'habitude de sermonner dans les réunions socialistes, dans les multiples projets socialistes qui se ressemblent tous, qui ont été photocopiés depuis 20 ans les uns aux autres, disons-le, nous ne parviendrons pas à exister. Car aujourd'hui, les marchés financiers, le système économique est plus fort que la politique. Donc aujourd'hui, à système constant, les socialistes n'existent pas et sont interdits d'exister. Voilà pourquoi j'assume l'idée qu'il faut reprendre en main la finance par des mesures extrêmement draconiennes, très sévères et non négociables. Voilà. Sinon, tout ce qu'on veut reconstruire des services publics, de l'État-providence, on consacrera à payer la dette qu'on n'a pas à payer et qu'il faudra faire payer par le système financier. Tout ce qu'on essaie de faire sur l'économie, traiter les problèmes sociaux aujourd'hui par le social est une erreur. C'est presque une erreur, une faute politique. Il faut traiter les problèmes sociaux par l'économie, ce qu'on n'a jamais voulu faire. Les socialistes du logiciel sociodémocrate traitent les problèmes sociaux par le placebo, le remède. On s'attaque aux conséquences, on ne traite pas les causes. Mon projet s'attaque aux causes. C'est plus dur, c'est plus difficile, c'est plus exigeant, ça provoque plus d'objections, mais il est bien certain que c'est un véritable programme de transformation de l'économie et de la finance.
Un mot au cœur du programme d'Arnaud Montebourg, la démondialisation, qu'il expose dans son livre programme « Voter pour la démondialisation, la République plus forte que la mondialisation ». Un mot est déjà un paradoxe. Ce concept a en effet été forgé il y a un peu moins d'une décennie par Weldon Bello, un sociologue philippin formé aux États-Unis, largement cité en France et reconnu dans le monde entier, bref, par un symbole de la mondialisation. Mais c'est que la démondialisation concerne essentiellement les volets socio-économiques. Comme le rappelle cette citation de Keynes, mise en exergue du livre du candidat à la primaire. Les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité, les voyages, ce sont là des choses qui, par nature, doivent être internationales. Mais produisons les marchandises chez nous, chaque fois que c'est raisonnablement et pratiquement possible. Démondialisation, protectionnisme, régionalisation, nécessité de faire dominer le politique sur le financier, des idées dont Lionel Zanzou se demande si elles sont si neuves, qu'Arnaud Montebourg l'explique. Si elles ne sont pas datées et obsolètes, héritage du mercantilisme ou, plus récemment, des économies dirigées du XXe siècle. Le banquier d'affaires reprend ainsi à son compte l'attaque de Pascal Lamy, président de l'OMC, contre le concept de démondialisation qu'il juge réactionnaire, alors que pour lui, je cite, « ce n'est pas la mondialisation qui fait problème, mais l'insuffisance de garde-fous ». Arnaud Montebourg répond à Lionel Zanzou, par là même à Pascal Lamy, se défend et se fend d'une analyse historique.
Solutions nouvelles ou traditionnelles? Elles sont nouvelles par rapport aux 30 années qui viennent de s'écouler et qui ont détruit toute forme d'intervention dans l'économie. Ont délégitimé toute forme d'intervention dans l'économie. Et ce sont les socialistes eux-mêmes qui ont organisé la dérégulation financière, Je renvoie d'ailleurs à la lecture d'un très beau livre d'un professeur de Harvard qui s'appelle Rawi Abdelal, dans un livre qui s'appelle Capital Rules, où il explique que ceux qui ont conçu dans les années 80 la déréglementation financière, par rapport à ce qui avait été imaginé avant-guerre et après-guerre, comme leçon tirée de la Grande Dépression de 1929 et des années 30 et de ce que ça avait produit, il faut bien se souvenir pourquoi on avait tenu la finance entre les mains. C'est parce qu'elle avait produit le nazisme et le fascisme. Dans la secousse de 1929, un mot d'histoire, les démocraties qui ont été intraitables avec la finance, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le président Roosevelt, avec son entourage keynésien, l'inspiration du New Deal, ils ont sauvé leur démocratie. Ceux qui ont fait la politique des marchés, ce sont les Européens. Et eux ont été lâches ou faibles devant la finance. C'est le chancelier Brüning qui a porté, par sa politique, Adolf Hitler au pouvoir. Il est passé en 3 ans sous la politique du chancelier Brüning de 11% à 33%. Vous connaissez la suite. Quelle était sa politique? La politique qui est actuellement imposée à Papandréou. Exactement la même. En France, c'était le président Laval, les décrets-lois de la misère, qui a provoqué la naissance du fascisme en France. Le 6 février 1934 était dans cette période. Le sursaut de la, du Front populaire ayant été un moment, une sorte de remise en question, mais qui a produit, comme vous le savez, des effets très éphémères. Donc en vérité, tous ceux qui n'ont pas, à un moment ou à un autre, contrôlé la finance, ont vu le système politique s'effondrer, et c'est exactement ce qui nous attend. Ce qui s'est passé, c'est intéressant, parce que dans les années 80, ce sont les socialistes français, écrit ce professeur de Harvard, qui ont été à l'origine de la dérégulation financière. Et il donne les noms. Jacques Delors, Pascal Lamy, Michel Candessu. Et il s'amuse d'ailleurs, par un travail très scientifique, à examiner comment les Français sont venus contaminer les Reaganomics. Évidemment, une sorte d'alliance intellectuelle, de croyants, finalement que la politique est mauvaise et que les marchés, c'est très utile, c'est enrichissant et c'est régulateur. Pour moi, c'est appauvrissant et dangereux. Est-ce que ce sont des solutions nouvelles? Oui, par rapport à ce qu'a été la droite et la gauche en France qui ont poussé très loin le dogmatisme et l'aveuglement idéologique vis-à-vis du marché. Comme en témoigne ce qu'a proposé Lionel Jospin en 2002. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. L'État ne peut pas s'occuper de vous. Donc c'est la négation même de la politique qui a conduit à la victoire du Front National. Et c'est exactement ce qui nous menace une nouvelle fois cette année dans la tempête financière qui se déchaîne, qui d'ailleurs a trouvé finalement les ferments du cyclone dans la dérégulation financière telle qu'elle avait été imaginée par les apprentis sorciers de la gauche et de la droite libérale. Le protectionnisme européen, mais c'est ce que font tous les pays, même le Brésil, pays émergent, la Chine, l'Inde, ils se protègent pour vendre le plus possible aux autres et acheter le moins possible aux autres, bien sûr. Mais nous n'avons plus aucun des outils politiques qui permettent à la population de croire que la politique est plus forte que l'économie. La monnaie, le budget, la frontière. La monnaie, on l'a confiée à une banque centrale indépendante. Ça nous pose quand même quelques problèmes dans la période actuelle, car nos concurrents, eux, manipulent la monnaie. Le yuan renminbi est utilisé par le Parti communiste chinois à des fins de dumping monétaire. Le dollar fait partie de la stratégie de policy mix, budget président des États-Unis, Fed et manipulation du taux de change, stratégie exportatrice de dévaluation. Ils s'en servent, mais nous pas. Le budget, les budgets, aujourd'hui surendettés parce qu'on a renfloué nos banques au lieu de faire payer les banques et leurs responsabilités ou de les mettre en faillite ou de les nationaliser, ce qu'on aurait dû faire il y a 3 ans, nous nous retrouvons aujourd'hui avec des États surendettés et placés sous tutelle des marchés financiers. Donc nous avons perdu la maîtrise du budget, qui contrôle nos niveaux de dépenses à la baisse et nos niveaux de fiscalité qui, évidemment, augmentent pour les classes moyennes et classes populaires, avec un processus récessif et d'austérité qui s'aggrave, et continue à être favorable aux revenus du capital, qui sont non seulement indécents, mais en plus improductifs. Donc avec ça, on a perdu la maîtrise du deuxième outil pour agir. Troisième outil, la frontière, bah, vous l'avez compris, l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle nous avons adhéré en même temps que nous faisions la construction de l'euro, ce qui est la particularité de l'Union européenne. On a fait deux choses en même temps qui sont radicalement incompatibles. Vous pouvez faire une banque centrale européenne avec une monnaie forte si vous contrôlez vos frontières. Ou alors, si vous ne contrôlez pas vos frontières, vous avez intérêt à avoir une monnaie qui est de temps en temps faite pour faire du dumping. Ce que font un certain nombre de nos concurrents. Mais nous, on a les deux inconvénients sans avantage. Et en plus, on s'est privé du contrôle des frontières, donc du protectionnisme, ce que font tous nos concurrents. Donc moi, ce que je propose, c'est de nous mettre à niveau de la concurrence.
Arnaud Montebourg est très critique face à la situation mondiale actuelle et au comportement de la sphère financière. Le seul moment du débat où il hausse le ton et s'emporte, c'est d'ailleurs à ce propos.
Que je sache, les banques ont des salles de marché. Elles passent leur temps. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Kerviel? C'est ça, c'est des salles de marché. Un type qui appuie sur un bouton, il se trompe de 3 milliards, 4 milliards. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans les subprimes américaines? Est-ce que vous, les banques françaises ont perdu 16 milliards dans les, c'est pas beaucoup. C'est quand même le prix du plan grec de l'année dernière. Et est-ce qu'on sait que BNP Paribas, parce qu'il paraît que les pauvres banques ont plus d'argent, ont distribué en 5 ans, en pleine tempête financière, la première banque française a distribué 15 milliards de dividendes à ses actionnaires.
Pour éclairer ce concept de démondialisation dont Arnaud Montebourg se fait le héros, un expert a accepté de répondre à nos questions, Pascal Lemerrer. Pascal Lemerrer, bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'ENS de Lyon, fondateur des JECO, qui auront lieu à Lyon les 9, 10, 11 novembre et que Transistor a le plaisir de couvrir avec vous. Vous êtes également membre du bureau de l'Association française de sciences économiques. Vous avez signé avec Jean-Pierre Allégret en novembre 2007 un livre intitulé « Économie de la mondialisation, opportunités et fractures ». À l'heure du Global Village, le terme de mondialisation ne cesse d'être employé à tort et à travers, et surtout de travers. Alors, quelle définition pourriez-vous nous donner de la mondialisation?
Bon, si on devait faire très simple, on pourrait dire que la mondialisation, c'est l'intégration à la fois du marché des capitaux, du marché des biens et des services, et aussi du marché du travail. Puisqu'on oublie, c'est que les migrations se heurtent à de nombreux obstacles et qu'en tout cas, s'il y a mondialisation, elle est très incomplète à ce niveau-là. Le marché du travail est encore assez largement cloisonné et les obstacles au flux humain sont encore très nombreux.
Pourtant, on a l'impression que la mondialisation est totale et on a dans l'opinion populaire des fausses images de la mondialisation. Par exemple, il y a un an, une étude américaine dévoilait que 70% des Américains considéraient que les accords de libre-échange avaient nui gravement à l'emploi et 60% se montraient favorables à des restrictions commerciales. Comment expliquer cette défiance face à la mondialisation et est-elle justifiée?
Alors c'est vrai qu'il y a une défiance. D'abord, une défiance qui est assez logique parce qu'on attendait des effets très positifs de la mondialisation. C'était plutôt l'apologie de la mondialisation pendant les années 1990-2000. Or, ces effets très positifs, premièrement, on ne les a pas vus clairement. Deuxièmement, ce qu'on a mal compris, je pense, c'est qu'il y a un discours des économistes qui n'est pas très clair sur le sujet. On vous explique qu'il y a des avantages nets à la mondialisation. C'est-à-dire que les avantages l'emportent sur les pertes. Mais bien évidemment, il y a des pertes. Et simplement, les économistes expliquent que les avantages étant supérieurs aux pertes, ceux qui bénéficient davantage peuvent compenser ceux qui perdent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gigantesque problème de redistribution. La mondialisation, pour fonctionner, suppose une redistribution négociée où ceux qui bénéficient des avantages acceptent de redistribuer une partie de ces avantages vers ceux qui perdent. Ceci dit, je pense aussi que la deuxième erreur, c'est qu'on a une vision un peu 19e siècle de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à travers le commerce international, il y aurait des produits qui inonderaient le monde, comme les Anglais au 19e siècle. Et évidemment, on pense aux Chinois aujourd'hui. Sauf que c'est une vision qui est très très fausse, parce que aujourd'hui, si on regarde comment est organisée la production, il y a quelque chose que les économistes appellent la division internationale des processus productifs, c'est-à-dire que dans chaque pays, vous pouvez avoir une partie de chaîne de valeur plus ou moins importante qui se réalise sur place. Et le reste est importé et fait partie des composants de la production. Si vous prenez par exemple l'iPod, fabriqué en Chine, 97% de la valeur est importée. Et la Chine ne fait que 3% de la valeur de l'iPod qui est exportée.
C'est pour ça que quand Arnaud Montebourg dit dans son livre « Voter pour la démondialisation » qu'il faut mettre fin au traité de libre-échange et instaurer des partenariats bilatéraux, il se trompe en fait sur la nature du commerce mondial telle qu'elle est actuellement.
Je pense qu'il a essentiellement en tête du commerce de produits finis. Et le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de maîtriser les parties stratégiques des chaînes de valeur. Et donc, vous pouvez avoir intérêt à importer des parties de la chaîne de valeur sur lesquelles vous ne pourriez pas rivaliser en termes de coût de production, mais par contre, garder la partie de la chaîne de valeur où il y a les éléments technologiques stratégiques.
Et pourtant, ce n'est pas cela qu'on retient. On voit la démondialisation tout à l'heure, vous parliez des avantages, mais on retient surtout les pertes. Arnaud Montebourg, dans « Voter pour la démondialisation », son livre commence par faire un tableau apocalyptique de la mondialisation, décrivant les nouveaux cavaliers de l'apocalypse que sont la délocalisation, l'esclavage moderne dans les pays du Sud, les licenciements dans les pays dits du Nord, l'accroissement des inégalités et l'impact écologique.
Oui, je pense qu'il est facile de trouver tous ces arguments et de prendre un exemple à chaque fois qui statistiquement n'est pas significatif. L'exemple des délocalisations a quand même beaucoup animé les débats. D'abord, très souvent, des usines sont fermées et ne sont pas relocalisées spécialement en Chine. Deuxièmement, ce qui est complexe, c'est qu'on a quand même une Union européenne. Et que là, par contre, il faudrait bien avoir une stratégie industrielle européenne, parce que dire si une usine ferme en France, mais ouvre dans un autre pays de l'Union européenne? Est-ce que c'est une délocalisation scandaleuse, ou est-ce que c'est finalement une réorganisation du territoire économique sur l'Union européenne? Et là, je pense qu'on a un véritable manque, parce que d'abord, on fait essentiellement du commerce entre pays européens. L'essentiel des produits importés par la France viennent de l'Union européenne et repartent vers l'Union européenne. C'est donc d'abord avec l'Union européenne qu'on doit certainement penser notre stratégie d'intégration commerciale et derrière, d'avoir une véritable politique industrielle commune si on veut, dans le cadre de la mondialisation, occuper la place qui revient à l'Union européenne.
Là, vous rejoignez donc Arnaud Montebourg qui fonde sa démondialisation sur une régionalisation, un protectionnisme moderne vert européen, c'est ce qu'il dit, qui serait fondé sur, d'une part, la mise au pas de la finance mondiale, qui est le prérequis à tout son programme, selon lui, et une taxe carbone.
Je pense que c'est toujours un peu rapide de opposer régionalisation et mondialisation, surtout qu'à l'échelle européenne, ce qui manque, on le sait aujourd'hui, c'est un véritable gouvernement économique. Et qui dit gouvernement économique dit évidemment d'avoir une fiscalité, une politique budgétaire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une véritable stratégie industrielle. Si on veut avoir une dynamique de l'offre qui nous permet ici de créer de la richesse et d'améliorer le niveau de vie de chacun, il va falloir réellement que l'on pense cette partie-là qui est restée, je crois, dans l'ombre. Et pour qu'elle soit acceptée par la population, il faut, je pense, une véritable politique sociale. C'est-à-dire que la mondialisation a créé quand même quelque chose qui est évident, c'est de l'insécurité.
Vous parlez d'insécurité, de risque. Arnaud Montebourg dit justement, face à tout cela, il faut une démondialisation. À cela, Pascal Lamy, président de l'Organisation mondiale du commerce, qui dit « c'est un concept réactionnaire, il se trompe, ce n'est pas la mondialisation qui est en cause, c'est l'absence de garde-fous ».
J'aurais tendance à dire « il faut réguler la mondialisation ». Je pense qu'en fait, aujourd'hui, en effet, les économies de marché ont certainement intérêt à enrichir leurs institutions, justement en tenant compte des nouveaux risques qui sont apparus, et elles n'ont pas à se soumettre à un modèle général pour mettre en place ces institutions. Donc on peut, je pense, avoir une grande richesse d'institutions nationales qui sont liées aussi à l'histoire de chacun des pays, mais qu'il faut y ajouter des couches beaucoup plus efficaces au niveau des institutions régionales. Et là, je pense que l'Europe réellement a un problème de gouvernance économique qui est évident. Et si on va à un niveau plus élevé, il faut aussi que l'on arrive à avoir une gouvernance mondiale.
Pour vous, Arnaud Montebourg, il est réactionnaire ou juste simpliste parce qu'il voit l'économie de marché d'une vision trop linéaire?
Forcément, c'est une thèse qui va être très populaire et très populaire dans un contexte de
populaire
crise.
Ou populiste?
Je pense qu'on est entre les deux. J'étais prudent en disant simplement populaire. On voit bien d'ailleurs que cette thèse de la démondialisation traverse tous les courants qui veulent, je pense, ici avoir un message qui peut être attractif. Maintenant, si on regardait de près les conséquences que ça aurait de vouloir fermer davantage les frontières, certains seraient très surpris. Je pense qu'en fait, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est qu'aussi la mondialisation, c'est une opportunité pour les territoires, pour ce qu'on appelle l'économie de proximité. Vous pouvez avoir un produit local qui a un marché extrêmement restreint, et on le voit bien avec Internet, on le voit avec des réseaux qui peuvent fonctionner, un produit local peut avoir un marché mondial. Enfin, j'ai quand même l'impression que si on regarde les réseaux d'information aujourd'hui, la question de la démondialisation, elle est un peu dépassée. On peut toujours vouloir mettre un peu d'obstacles sur les marchandises, mais à partir du moment où les individus auront par Internet accès à des fournisseurs, ça sera un sacré problème pour les douanes. Si, en fait, tous les produits qui circulent sur Internet doivent être contrôlés. Donc, il y a aussi une chose très simple. Il y a aussi simplement un manque de réalisme par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie du matériel. Deuxièmement, je pense qu'on est aussi dans un biais, c'est que la crise des dettes souveraines nous ramène à une chose, les États sont exsangues et vont être très tentés dans la période à venir de trouver des nouvelles ressources fiscales. Donc même si les acteurs publics ne sont pas totalement convaincus du discours sur la démondialisation, ils pourraient céder en tout cas à la mise en place de nouvelles taxes, simplement pour augmenter les recettes fiscales. Et là, à court terme, c'est toujours avantageux. Après, il faut voir ce que ça génère. C'est-à-dire, si ces recettes fiscales détournent la création de valeur et qu'elle ne se fait pas là où on l'attendait et qu'on perd des emplois, le bilan ne sera pas forcément positif. Si on met des obstacles avec des taxes, on pourrait être surpris et voir que finalement, on alourdit les coûts de nos entreprises qui doivent exporter et faire que finalement, la dynamique d'exportation soit compromise par ces taxes. Ça sera, à mon avis, très complexe. Il existe une analyse sur ce qu'on appelle la protection stratégique, par opposition à la protection nominale, et qui vise en fait à protéger essentiellement la création de valeur ajoutée.
Si jamais Arnaud Montebourg est élu président de la République et qu'il met en place son projet de démondialisation, la situation serait-elle meilleure ou pire que ce qu'elle est à présent?
Je pense que s'il le mettait en place, il le mettrait en place par étapes, ça me paraît difficile de le réaliser, et que je pense qu'il verra les conséquences dans les étapes intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va bien y avoir des secteurs de l'économie qui vont se retrouver en difficulté alors qu'on souhaitait plutôt le protéger. La réalité économique rattrapera ceux qui doivent prendre des décisions. Leur problème, ce sera quand même d'arriver à relancer la création d'emplois dans l'économie.
Et vous ne pensez pas que c'est la bonne solution pour relancer la création d'emplois?
Non, ce n'est pas la bonne solution, parce que je pense que si on devait avoir une stratégie, ce n'est pas tellement sur les droits de douane, mais par exemple que sur les brevets et sur tout ce qui est l'industrie de la connaissance, on devrait y faire beaucoup plus attention. Je pense qu'on a déjà vu des éléments de réorientation. On peut penser que les pôles de compétitivité vise aussi à favoriser ici des effets d'agglomération entre des activités de haute technologie. Là, par exemple, on a un véritable enjeu. Et puis derrière cela, je pense qu'il faudrait absolument essayer de stimuler des mécanismes de diffusion. Je pense que la catastrophe aussi, c'est que des territoires perdent leurs activités économiques. Je pense qu'il faut arriver à redynamiser les territoires et que ce n'est pas du tout incompatible avec la mondialisation. Donc économie du savoir, dynamique des territoires et mondialisation bien gouvernée.
Merci beaucoup Pascal Lemaire. Alerte rouge, alerte rouge, pic, petite phrase manipulation, situation comique et contre-vérité repérée. À plusieurs reprises, Arnaud Montebourg insiste sur ses fonctions locales dans le débat, se présentant comme un élu de terrain qui va à la rencontre des Français et ne passe pas sa vie, je cite, dans les aéroports, incapable qu'il ait de parler correctement une langue étrangère, à part peut-être l'anglais. Mais bien sûr, derrière cela, il y a une stratégie bien rodée. D'une part, il ne faut pas laisser dans l'esprit des Français à François Hollande le monopole des kilomètres parcourus en France. Et d'autre part, il faut faire contrepoint à Nicolas Sarkozy et ses déplacements nombreux à l'étranger, plus rares en comparaison sur le sol français. Et Arnaud Montebourg de citer Chateaubriand, « Il ne faut pas savoir parler trop de langues, cela nuit à l'intelligence. » Les étudiants en langue apprécieront. À bien y réfléchir, Arnaud Montebourg et Chateaubriand se ressemblent assez, c'est vrai. Même lyrisme romantique qui pousse à des élans passionnés, même apparence d'aristocrate rebelle, même grande culture, puisqu'Arnaud Montebourg, dans ce débat, cite également Montesquieu, Hannah Arendt et des économistes et d'autres universitaires. Et donc, dans la comparaison, même méconnaissance des langues étrangères. Arnaud Montebourg dénonce les institutions de la Ve République, de ce qu'il appelle un « système présidentialo-monarchique », tout comme François Mitterrand en son temps. Enfin, François Mitterrand avant qu'il ne soit élu président, et qu'il finisse par trouver son intérêt dans ce système présidentialo-monarchique, jusqu'à être caricaturé dans le Nouvel Observateur en 1983 par Viaz avec une perruque 18e siècle sur la tête faite de roses socialistes. Arnaud Montebourg à plusieurs reprises s'oppose à Jacques Delors sur l'Europe, sur la dérégulation de la finance, sur la vision du socialisme. Évidemment, le fait qu'il s'en prenne à Delors n'a rien à voir avec le fait qu'une certaine Martine Aubry soit sa fille, ni qu'un certain François Hollande ait été le président du club témoin garde rapprochée de l'ancien président de la Commission européenne. Non. À propos de la mise sous tutelle des universités, Arnaud Montebourg indique qu'il a signé un texte avec Bertrand Montubert, ami de Martine Aubry, qui le soutient à présent. Et d'ajouter « Ce n'est pas innocent de le signaler ». À la fin du débat, nous avons réussi à poser quelques questions. D'abord à l'ex-candidate à la présidentielle de 2002, membre du Parti radical de gauche dont le président est Jean-Michel Bailey, Christiane Taubira d'abord, puis à Arnaud Montebourg lui-même. Écoutez.
Bonjour.
Bonjour Madame Taubira. Je vous vois arriver à la réunion donnée par Arnaud Montebourg. Vous le soutenez ?
Je le soutiens absolument depuis le mois de décembre 2010 et je fais campagne avec lui depuis cette époque.
Et pourquoi ? Quelles sont les raisons de votre soutien ?
Nous avons des convergences extrêmement profondes depuis presque une quinzaine d'années puisque nous avons lancé ensemble il y a une dizaine d'années la Convention pour la 6e République. Nous avons circulé dans toute la France pour convaincre les citoyens de la nécessité de changer de République et nous avons obtenu une résonance tout à fait encourageante pour nous. Nous avons lutté ensemble aussi contre les abus financiers depuis plusieurs années, lui contre les paradis fiscaux, moi contre les fonds vautours. C'est ainsi qu'on appelle sur le plan international les fonds spéculatifs qui font main basse sur les budgets d'État. Et puis nous avons toute une série de combats en commun à l'Assemblée nationale. Et pour ces raisons-là, j'ai répondu très favorablement à sa demande de soutien qui est venue vers moi depuis le mois de juin 2010.
Et M. Bailey n'a rien vu de mal dans cette... appui que vous accordez à Arnaud Montebourg et pas à lui-même ?
Alors déjà pour moi, il n'y a pas de la moindre hésitation. Pour commencer, M. Bailey a déclaré début décembre que le PRG ne participerait pas aux primaires. Il a décidé presque 6 mois après de s'y engager. C'est à lui de s'en expliquer. Pour ce qui me concerne, son engagement ne m'a pas conduite à me poser la moindre question sur l'engagement que j'avais déjà pris et que j'exécutais aux côtés d'Arnaud Montebourg.
Dernière question, en 2007, vous étiez dans le soutien à la campagne de Ségolène Royal. Là, vous êtes maintenant dans le soutien à Arnaud Montebourg, qui lui-même faisait partie de la campagne Ségolène Royal. Est-ce que vous trouvez que Ségolène Royal fait partie du passé et n'a pas réussi à avancer depuis 2007 et c'est pourquoi vous ne la soutenez plus ?
Alors déjà, nous sommes dans des schémas différents. Je soutiens Arnaud Montebourg dans son parcours vers la primaire, alors que j'avais soutenu Ségolène Royal une fois qu'elle a été désignée par les primaires, élus par les primaires. Donc nous ne sommes absolument pas dans la même configuration.
D'accord.
J'ai rejoint Ségolène Royal aussi à sa demande. J'ai eu un peu de mal parce que j'avais des désaccords assez profonds sur le plan politique, sur un certain nombre de sujets.
Exemple.
Par exemple, lorsqu'elle proposait que ce soit l'armée qui reprenne en main les jeunes qui sont un peu en difficulté, en marge de la société, en contestation aussi avec la société. C'est le droit des jeunes de contester l'ordre qu'ils trouvent, eux,
bien
au
sûr,
moment
oui.
où ils arrivent adultes et lucides, assez mûrs pour analyser finaliser. Donc j'avais ces désaccords-là, j'avais quelques autres désaccords, mais il n'empêche que c'était la candidate de la gauche. Je suis loyale à la gauche, malgré mes désaccords avec la gauche. Et donc j'ai soutenu Ségolène Royal. Ceci étant, Ségolène Royal est une personne qui, à mon égard, s'est comportée de façon tout à fait correcte. Donc nous avons conservé d'excellentes relations, mais sur le plan politique, il est indiscutable que j'ai beaucoup plus de convergence avec Arnaud Montebourg.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Transistor et bonne soirée.
Merci.
À laquelle vous n'avez pas répondu. Dans le prologue de votre livre « Voter pour la démondialisation », vous commencez par une adresse aux millions d'ouvriers dont la situation s'est dégradée. Vous prenez des cas dans le premier chapitre de ce livre, des cas d'ouvrières teinturières dans le Nord, d'ouvriers chinois. Vous avez été cette semaine dans une usine à Amiens pour
la semaine dernière.
Pour témoigner cet intérêt que vous avez pour l'industrie française, internationale. Est-ce une manière de tordre le cou à ceux qui disent que le Parti Socialiste n'est plus depuis longtemps le parti des ouvriers et que les ouvriers ont tendance à aller voir les sirènes du Front National?
La réponse est oui.
Et la politique industrielle que vous appelez de vos voeux, fondée sur un partenariat fort avec l'Allemagne et sur une avancée vers l'économie verte, a-t-elle une chance de concurrencer? Et comment les géants industriels mondiaux que sont les Chinois, les Indiens, les Brésiliens?
Par le protectionnisme, pour nous protéger contre le dumping économique qu'ils pratiquent sur leurs produits. Et par l'investissement massif, 30 milliards par an, il faudra qu'on trouve. C'est un emprunt obligatoire, j'ai pas pu répondre parce que j'avais trop de questions. Un emprunt obligatoire sur les patrimoines et les fortunes qui ont été épargnées par la crise.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette émission spéciale arrive à sa fin. Pour aller plus loin, je vous conseille la lecture du livre programme d'Arnaud Montebourg, Voter pour la démondialisation, qui condense son précédent livre, des idées et des rêves. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur son site internet pour trouver le détail de toutes ses propositions. Pour le thème de la mondialisation, deux livres de référence pour creuser le sujet. D'abord, Des lieux et des liens, politique du territoire à l'heure de la mondialisation, de Pierre Veltz. Ensuite, le livre de Pascal Lemerreur, qu'il signe avec Jean-Pierre Allégret, Économie de la mondialisation, opportunités et fractures. Sur les critiques de la mondialisation, d'une part, le scandale des délocalisations, écrit par Éric Laurent, et d'autre part, le livre intitulé « La démondialisation » dû à Jacques Sapir. Je vous rappelle enfin que le Parti Socialiste organise des primaires populaires de la gauche ouvertes pour choisir son candidat à l'élection présidentielle en 2012 entre Martine Aubry ou Ségolène Royal, Arnaud Montebourg ou François Hollande, Jean-Michel Baillet ou Manuel Valls. Le principe est simple, chaque citoyen inscrit sur la liste électorale peut participer. Il n'est pas nécessaire d'être membre du Parti Socialiste ou d'un quelconque parti politique pour voter. Une contribution de 1 euro minimum et la signature d'une déclaration affirmant l'attachement aux valeurs de la gauche et le soutien aux candidats vous sera demandé. Les primaires auront lieu le 9 et le 16 octobre et pour trouver votre bureau de vote, il suffit de se rendre sur le site du Parti Socialiste. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine avec toute l'équipe de présidence cette fois et autour de Philippe Mérieux pour parler éducation. D'ici là, gardez l'esprit critique.